Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité, on découvre les secrets d'un super prédateur, l'orque. Bonjour Pierre-Robert Delatour.
Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci.
Vous êtes plongeur, explorateur marin, président, fondateur d'Orque Sans Frontières. Quand est-ce que vous êtes tombé sous le charme des orques ?
Avec les orques, c'était une rencontre accidentelle en fait. J'étais en compétition de pêche sous-marine en Norvège, oui, avec l'équipe de France et j'ai été approché par des orques. Je ne les ai pas vus, c'était une rencontre auditive. Et ce sont mes compagnons de plongée qui m'ont dit que des ailerons d'orques étaient juste à côté de moi et qu'ils avaient peur pour moi. Ils se sont dit « tu vas te faire manger ». Et en fait, ça a débloqué quelque chose chez moi et deux jours après, j'ai gagné la compétition. Et avec la prime du sponsor, j'ai payé ma première expédition en tant que passager sur le bateau qui m'emploie aujourd'hui.
Mais attendez, c'est quoi une rencontre auditive ? Parce que moi, je crois que ça ne m'est jamais arrivé.
Alors, en
ou
fait,
peut-être
je
que si.
Tous les jours sur RTL, on fait des rencontres.
Oui, ben oui. En fait,
mais dans l'eau.
Dans l'eau, on entend très bien le chant des baleines et le chant des orques. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je veux dire, j'ai entendu ces sons qui venaient des profondeurs et c'était quelque chose d'assez captivant.
En quelques mots, vous nous rappelez, parce qu'on va avoir le temps, on a une demi-heure, vous nous rappelez à quoi ça ressemble ?
L'orque est un gros dauphin, c'est le plus gros membre de la famille des dauphins, qui est noir et blanc, qui a le dos noir, qui a le ventre blanc. Et
on dirait qu'il est en costume.
On dirait qu'il est en costume.
En costume, un petit peu.
Ça ressemble un peu à la couleur de la pie, mais en plus gros, ça fait quand même jusqu'à 10 mètres et quelques tonnes.
Et avec quelques dents en plus aussi, des grosses dents.
Et des grosses dents.
Allez, on continue de vous raconter l'histoire de l'orque, ce super prédateur qui ne ferait pas de mal à un humain. On va découvrir qu'il est plus malin et plus empathique que nous.
Ça va faire mal.
Ça vous surprend peut-être, mais restez avec nous sur RTL.
14h-15h.
Doués de langage, regroupés en famille solidaire, les orques sont des chasseresses redoutables. Leur puissance hors norme leur permet de terrasser les plus grosses espèces de l'océan.
Thomas Hugues.
Elles sèment la terreur sur leur passage.
Sidonie Bonnec.
Intelligentes et organisées, elles s'adaptent à tous les milieux. Dans un enfer stérile au bout du monde, elles ont développé d'incroyables techniques de chasse pour survivre. Pourtant, aujourd'hui, leur avenir est menacé.
Les curieux sont sur RTL.
On plonge à la découverte des orques avec Pierre-Robert Delatour, président fondateur d'Orque Sans Frontières. Vous êtes un plongeur, un explorateur marin. L'orque, on dit que c'est un super prédateur. Évidemment, ce terme fait un peu peur. On se dit, oulala, mais en fait, il est dangereux pour l'homme. Vous nous avez raconté votre rencontre auditive avec une orque et vous êtes toujours entier avec nous. Ça veut dire que super prédateur ne veut pas dire danger pour l'humain.
C'est pas systématique, en fait. À l'expérience, on s'aperçoit que l'orque n'a jamais attaqué d'être humain en milieu naturel. C'est arrivé en captivité. En milieu naturel, il n'y a jamais eu d'attaque. Et ça peut paraître paradoxal parce que, dans le même temps, ce super prédateur est au sommet de toutes les chaînes alimentaires. On appelle ça un prédateur apex. Il n'a lui-même pas de prédateur. Il est capable de chasser toutes les espèces marines. Ça va du petit poisson comme le hareng. Mm-hmm. Les orques que l'on rencontre en Norvège chassent du hareng, jusqu'à la baleine bleue,
qui est beaucoup
plus grosse que l'orque. Les orques sont capables d'attaquer tous les animaux, en passant par les requins, en passant par des tortues, des manchots, des phoques.
Alors, ils font la différence avec l'homme. Pourquoi ils attaquent jamais l'homme ?
C'est une question à laquelle je n'ai toujours pas la réponse. Je ne sais toujours pas pourquoi l'homme fait partie de l'exception alimentaire des orques.
Et comment expliquer que l'orque est au sommet de la chaîne alimentaire aussi ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas de prédateur ? Il n'y a pas un animal plus gros qui peut le dévorer, comme une baleine ?
Non, je veux dire, la chaîne alimentaire doit avoir un prédateur apex. Mm-hmm. C'est le dernier élément qui est au sommet de la chaîne alimentaire et lui-même régule sa population en fonction de la ressource disponible. Et le système est parfaitement rodé, fonctionne parfaitement bien. Si ce n'est que les hommes sont venus déséquilibrer ce système depuis quelques décennies.
Alors, on va prendre le temps de raconter ça. Et puis tout à l'heure, on découvrira les caractéristiques de l'orque. Est-ce qu'elles vivent en famille ? Est-ce qu'elles ont une organisation sociale ? Leur empathie dont on parlait tout à l'heure. Mais d'abord, les ravages de l'homme. Il y a effectivement les orques qui sont chassés, emprisonnés pour aller dans des parcs d'attractions, il y a ça ?
Alors, la captivité ne représente pas une menace pour la conservation des orques, il faut être clair. Pour moi, ça présente un problème éthique. Mm-hmm. J'associe ça à une forme d'esclavage moderne d'une espèce sensée, sensible, intelligente. Par contre, les activités humaines, d'autres activités humaines, menacent différentes populations d'orques.
Est-ce qu'on chasse l'orque comme la baleine, par exemple ?
Très rarement. Très rarement, non. L'orque est protégé par les conventions de Washington.
En revanche, c'est notre mode de vie à nous, les humains, qui empoisonne les orques. Voilà. Par exemple, les pesticides.
Les pesticides, on sait que toutes les populations d'orques sont hautement contaminées par les pesticides.
Il y a du glyphosate, par exemple, dans une orque.
Très probablement du glyphosate, mais vous savez, les pesticides, il y a 6000 composés différents qui sont fabriqués par l'industrie chimique et qui sont disséminés dans la nature pour différents types d'agriculture, que ce soit insecticides, fongicides, pesticides, herbicides, tous ces composés-là sont disséminés dans la nature et s'accumulent et se concentrent au fur et à mesure qu'on monte dans la chaîne alimentaire.
Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. Plus on est haut dans la chaîne alimentaire, plus on mange des poissons qui eux-mêmes ont mangé des plus petits, etc. Et donc, les teneurs sont importantes.
Et donc, au final, sur ce dernier maillon, sur ce dernier échelon de la chaîne alimentaire, l'orque, le prédateur apex, les concentrations peuvent être phénoménales. Et ça a un impact, ça on le sait, sur notamment la mortalité néonatale, la mortalité des nouveau-nés entre 0 et 6 mois, qui selon les populations peut dépasser les 50%, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas renouveler leur population.
Et dans quelle partie du monde vivent les orques ?
On trouve des orques pratiquement dans tous les océans du globe, dans toutes les mers du globe, préférentiellement dans les mers froides, puisque la ressource y est plus abondante. Alors c'est
on dit la ressource, c'est la nourriture, c'est
la nourriture, toutes leurs espèces proies. Alors, encore une fois, ça peut aller du hareng, ça peut aller au maquereau, saumon, phoque, baleine grise, baleine bleue, même le cachalot. Enfin, aucune espèce marine n'est à l'abri.
Pourquoi il y a plus de ressources dans l'eau froide que dans l'eau chaude, Pierre-Robert de la Tour ?
Parce que la chaîne alimentaire commence avec, sur le premier maillon par des micro-algues qu'on appelle le phytoplancton. Et ce phytoplancton est plus abondant dans les régions du pôle, parce que l'eau y est plus froide, parce qu'il y a plus de lumière, parce qu'il y a plus de nutriments. Donc tous les éléments sont là pour faire en sorte que ce premier maillon est très riche. Et après, tous les échelons de la chaîne alimentaire donc, sont enrichis, sont dopés par la quantité de ce premier maillon. Et ça permet d'avoir une population de prédateurs supérieurs importante.
Pierre-Robert de la Tour, quand vous plongez au milieu des orques, vous êtes protégé, vous avez, je sais pas, une cage autour de vous, ou alors vous plongez comme un plongeur, bouteille et palme.
On n'utilise pas d'appareil respiratoire, on n'utilise pas de bouteille, je suis apnéiste.
D'accord.
Et les plongeurs qui m'accompagnent pratiquent aussi la nage sans appareil respiratoire, en plongée libre. Et on n'utilise pas de cage. Encore une fois, l'orque n'est pas dangereux pour l'homme, nous l'avons bien compris. Maintenant, j'ai cumulé plus de 6000 interactions sous-marines avec les orques en 20 ans d'expédition. Je n'ai jamais eu une seule fois un comportement qui pouvait m'indiquer que ça pouvait passer pour de l'agressivité, pour une exploration de prédation. Ce sont toujours des rencontres qui sont
Ils sont quoi,
très
curieuses.
Curieuses, et des fois ils nous associent à leur jeu. Et ils jouent carrément avec nous, c'est-à-dire, ça peut paraître curieux, mais vous voyez les animaux qui jouent entre eux, ils font la même chose avec nous.
Et comment ils jouent avec
nous ? C'est extrêmement rare.
Comment ils se cachent ?
C'est un petit peu ça, ils nous tournent autour, ils nagent le ventre en l'air, ils ont des formes d'invitation, un langage corporel, si vous voulez, qui moi, à l'expérience, me fait dire qu'ils nous associent au jeu.
Et vous avez déjà touché une orque ?
Non, jamais.
Non.
Pour moi,
c'est le
dernier geste à commettre.
Il ne faut pas le faire.
Par respect. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas le faire, mais moi je ne le ferai pas parce que c'est la dernière barrière. Je crois que c'est bien d'avoir une interaction en zone sociale de l'animal. Le contact, c'est une interaction intime. Et par définition, c'est réservé à des personnes ou des entités qui sont intimes avec vous. Moi-même, je n'estime pas que tout le monde vienne me toucher. Donc, j'imagine que les orques sont un petit peu comme
vous
ça.
Vous avez raison.
A fortiori, c'est une espèce différente. Donc, et puis encore une fois, on va toucher avec des mains. L'orque, lui, va vous toucher avec les dents. Et les dents, c'est très près de l'estomac. On ne sait pas où
on
peut s'arrêter.
Pas, on sait pas.
Donc, je crois qu'il faut être prudent et savoir aussi garder certaines distances.
Frère des orques, 20 ans de plongée avec les orques libres, c'est le titre, Pierre-Robert de la Tour, que vous publiez chez Glénat, l'expérience que vous nous proposez aussi dans la curiosité sur RTL. On a de la chance. Dans un instant, on va découvrir l'immense cerveau de l'orque.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Tu aimes les baleines ?
Lui, oui.
Il n'aime personne, alors fais très attention. T'approches pas. Willy, c'est un cas spécial.
Sur RTL.
Il aime bien nous mouiller la tête, on dirait.
Oui, il adore ça. C'est pas qui arrivera à le dresser si moi j'y arrive pas. L'orque, en général, c'est gentil et malin. Willy est malin et méchant.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais toi, tu l'aimes, hein ?
Ouais.
Extrait du film Sauver Willy, on raconte et on découvre les orques avec Pierre-Robert de la Tour. Vous êtes plongeur, vous publiez Frères des orques chez Glénat. Ce genre de film, ça fait du bien ou du mal
Ça fait du bien parce que c'est une histoire qui finit bien aussi. Un jeune enfant qui tombe amoureux de cet orque captif, qui perçoit sa détresse, son malheur et qui arrive à le libérer, qui lui offre la liberté, c'est quand même un beau message.
Alors on va détailler un peu la morphologie, la bête là. Vous l'avez dit en un mot, mais je pense qu'il faut, être un peu plus précis. Ça fait quelle taille, ça fait quel poids?
Il y a différentes populations d'orques dans le monde. Oui. Il commence à y avoir quelques différences physiques, notamment des différences de taille. Mais les plus gros orques peuvent aller jusqu'à 10 mètres, voire 11 mètres pour le plus long, et avoisiner les 10 tonnes.
C'est quelle espèce? Vous avez dit des...
C'est un dauphin, c'est un dauphin. Il appartient à la famille des dauphins, c'est un super dauphin.
Et les bébés, ils pèsent
Les bébés, c'est aux alentours de 2 mètres à la naissance et aux environs de 2 kilos. Là aussi, ça dépend des populations.
Et alors, du coup, le cerveau est à l'avenant, c'est-à-dire qu'ils ont des cerveaux très lourds.
Ils ont des très gros cerveaux. Le cerveau de l'orque fait 6 kilos. Mais vous savez, il y a d'autres animaux qui sont aussi très gros et qui n'ont pas des cerveaux aussi gros.
Par exemple, vous voulez dire qui sont aussi dans l'eau, dans les océans?
Si on fait le rapport avec, par exemple, le Tyrannosaure Rex, qui était le super prédateur du Jurassique.
C'est un petit poids, lui.
Il avait un petit poids dans la tête. Et pourtant, il occupait la même position dans la chaîne alimentaire. C'était le prédateur apex. Moi, je pense que si l'orque a un gros cerveau comme ça, c'est qu'il y a une raison pour ça. La nature, il n'y a rien sans raison.
Alors c'est quoi cette raison, Pierre-Robert Latour?
Ils sont très intelligents.
Comment vous le constatez, vous, quand vous plongez avec plus de 6000 contacts que vous avez eus et interactions avec ces orques?
Déjà, c'est extrêmement difficile à mesurer puisqu'on ne comprend pas ce qu'ils se disent. On ne comprend pas le langage verbal des orques. Donc, on n'arrive pas à mesurer leur degré de complexité sociale. Pour autant, on peut observer leur capacité à raisonner, leur capacité à résoudre des problèmes. Notamment en Norvège, ils ont dû s'adapter à la présence des baleines à bosse, par exemple, qui sont venues manger des harengs.
Dans leur gamelle
Dans leur gamelle, ils sont venus interagir dans leur garde-manger. Et la facilité avec laquelle ils ont mis en place une stratégie un petit peu différente qui leur permet d'accéder à la ressource, la facilité aussi avec laquelle ils évitent les bateaux quand certains bateaux n'ont pas les bonnes approches et les dérangent pour faire de l'observation.
Donc ils s'adaptent, les orques s'adaptent.
Voilà, et je crois que c'est une belle définition de l'intelligence.
Et il y a sur cette taille du cerveau, il y a aussi la question de l'empathie. Qu'est-ce qui vous fait dire dans votre livre Frères des orques que l'orque fait preuve d'empathie?
Alors, il y a deux choses. Il y a le sentiment personnel, les émotions que l'on ressent et qui sont communiquées par l'orque. Et il y a aussi des travaux du docteur Laurie Marino, qui est une neurobiologiste américaine, qui a scanné directement le cerveau d'un orque et qui a découvert qu'à l'intérieur du cerveau de l'orque, il y a des lobes qui sont présents et qui sont beaucoup plus importants chez l'orque que chez l'homme, notamment le lobe paralimbique qui est dédié aux émotions, qui est dédié à l'empathie.
Comment s'exprime cette... empathie chez l'orque, elle prend plus soin des autres.
Ils sont extrêmement sociaux, ils n'oublient jamais un partenaire, un congénère. Il faut savoir que la femelle, par exemple, quand elle perd son nouveau-né, elle va pousser sur le museau son nouveau-né pendant des jours sans s'alimenter. Une femelle orque a été observée pendant plus de 17 jours faisant le deuil de son nouveau-né en le poussant obstinément sans vouloir l'abandonner. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir, mais on sait effectivement que tous ces comportements-là sont liés à l'empathie.
Alors, vous parliez du langage, on n'arrive pas à décoder le langage des orques, ça ressemble à ça.
Moi, j'ai tout compris, hein. Dédé, t'as encore oublié de ramener le pain. C'est ça, non? Pierre-Robert de la Tour.
Ah, c'était Dédé, je croyais que c'était son cousin, j'étais un peu perdu. Comment ils communiquent? C'est quoi leur système de... l'écolocation, c'est ça?
Alors, ils ont deux systèmes. Ils ont un système qui les fait s'exprimer, ils émettent des sons dans le but de communiquer, qui sont sur une plage de fréquence assez importante, et on appelle ça des chants, ce sont comme le chant des baleines, qui est assez mélodieux avec plusieurs séquences. Donc, on sait qu'ils ont, par exemple, la population des orques de Norvège, 24 sons basiques. À titre indicatif, nous, on a 26 lettres de l'alphabet, juste pour vous faire un petit parallèle, qu'ils arrivent à faire plus de 60 mots en combinant ces sons différemment.
Donc il y a un vrai langage, c'est sûr.
C'est un véritable langage verbal que l'on ne comprend pas. Et en plus de cela, ils ont ce système d'écolocation qui est comme la chauve-souris. Ils émettent des sons et ils en interprètent l'écho, notamment pour se repérer. Et c'est facilité par la propagation du son dans l'eau qui est bien supérieure par rapport à ce qu'elle peut être dans l'air.
Donc c'est une espèce, l'orque, qui a une vie sociale, qui vit en groupe, c'est ça?
Ce sont des groupes familiaux. C'est... la plus vieille femelle qui vit en permanence avec toute sa descendance. Fils, petit-fils, fille, petit-fils, petite-fille, petite-fille, etc. Autant de générations qu'il y a, cela constitue le groupe social.
Donc si on croise des orques, c'est une famille en fait?
C'est une famille. C'est une famille qui vit au contact de sa mère, on appelle ça c'est du matriarcat, et qui ne connaît pas son père.
Père, il est parti vivre d'autres aventures, c'est ça ?
Les fécondations se font hors groupe, ils ne se reproduisent jamais à l'intérieur du groupe. Pour éviter la consanguinité, donc c'est la preuve qu'ils en ont conscience, que la consanguinité, je veux dire, c'est pas forcément bon, et qu'ils se séparent momentanément pour retrouver la femelle de notre groupe et ils reviennent.
Ah, c'est vraiment fascinant, qu'est-ce qu'on aime ce moment passé avec vous, Pierre-Robert de la Tour. Vous allez continuer de nous raconter tout ça, on va parler de la fécondation, et puis quand même c'est un super prédateur ou une super prédatrice, l'orque, et donc comment chasse-t-elle? Réponse à venir sur RTL.
Les orques sont venus chasser d'autres cétacés.
RTL.
Y compris les baleines à bosse qui viennent d'arriver sur les lieux pour se nourrir. C'est donc l'endroit idéal pour tendre une embuscade.
La curiosité est un vilain défaut.
Les orques se placent en cercle pour séparer un petit de sa mère.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Elles ont l'idée de découper la carcasse en morceaux et de cacher ceux-ci au fond de l'eau pour les consommer plus tard.
On fait tomber les clichés dans la curiosité, on nage avec des orques en compagnie de notre formidable guide, le plongeur, l'explorateur marin Pierre-Robert de la Tour, un super prédateur, l'orque qui ne nous mettra jamais à son menu, soyez rassurés. Vous avez plongé pendant 20 ans avec eux, Pierre-Robert de la Tour. On racontait la manière dont les orques se reproduisaient. Est-ce qu'il y a une période de reproduction, de rude, je ne sais pas? Est-ce que les mâles vont se battre pour les femelles?
Alors, il n'y a pas de pic de natalité, il y a des natalités toute l'année. La gestation dure 16 mois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de moment dans l'année où ils vont se rencontrer préférentiellement pour se reproduire. Donc ça se passe toute l'année. Et non, les mâles ne se battent pas pour les femelles. Il n'y a pas de conflit chez les orques, nous n'avons jamais observé.
Comment se passent les rencontres? Vous avez eu l'occasion de voir ça?
En fait, oui, il m'est arrivé de voir ces parades nuptiales. C'est quelque chose d'assez doux, mais c'est quelque chose aussi qui nous oblige à rester loin, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir de près. Mm-hmm. J'ai pas envie de les déranger, en fait.
Vous respectez leur intimité.
C'est exactement ça. Donc, pour peu qu'on puisse l'observer de loin, vous avez les mâles qui sont deux ou trois, et qui vont chacun à leur tour aller avec la femelle, qui est d'un autre groupe, puisqu'il n'y a pas de consanguinité. Mmh. Et une fois que les rencontres sont faites, chacun rentre dans son groupe, c'est-à-dire que les mâles vont retourner avec leur mère, la femelle va retourner avec sa mère, et les groupes vont se séparer, sauf que la femelle aura un petit nouveau-né à naître dans les quelques mois.
Question idiote, il y a une pénétration ?
Oui. On a vu les mâles...
Non, mais parfois, ça marche différemment dans la nature, tout est possible.
On a vu les mâles en parade nuptiale, il n'y a aucun doute là-dessus. Leurs signes de virilité sont assez imposants,
d'accord.
Je dois dire.
Ça veut dire à la hauteur du personnage.
Que les orques sont hétérosexuels.
Alors,
est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, les orques, de toute façon, pour se reproduire, il le faut. Mais depuis 3 ans maintenant, on rencontre un groupe avec 2 orques mâles, de très gros mâles, qui sont adultes et qui, visiblement, sont dans une relation homosexuelle et non pas un comportement homosexuel, tel qu'on peut le voir chez le chien, par exemple, de temps en temps. Là, c'est véritablement une relation et au fil des rencontres, on s'aperçoit que ces deux mâles-là sont toujours ensemble et ils s'aiment. Ils s'aiment de manière amoureuse, mais ils s'aiment. C'est quelque chose de remarquable, qui en dit long un petit peu sur la complexité de l'organisation sociale et de la vie sociale de l'orque, en fait.
Comment ils chassent, les orques? Comment elles chassent, puisque...
Alors, ils ont autant de modes de chasse différents qu'ils ont d'espèces proies différentes, à peu près 80 espèces proies dans la nature. Par exemple, quand ils chassent le phoque en Patagonie, ils s'échouent pour attraper les bébés de lions de mer. Quand ils chassent les harengs en Norvège, ils pratiquent ce qu'on appelle le carousel feeding, c'est qu'ils entourent la boule de harengs et ils vont taper avec la nageoire caudale pour les assommer et les consommer. À chaque fois, ce sont des techniques qui sont extrêmement élaborées. Certaines sont plus brutales. Quand ils chassent, par exemple, la baleine de mink, le petit rorqual ou les bébés de la baleine grise, où ils arrasent le bébé, ils séparent le bébé de la mère. Chaque individu de la famille a son rôle à jouer. Ils chassent en meute. Et ils coordonnent véritablement leurs actions de chacun des individus, ce qui sous-entend un système de communication en temps réel extrêmement complexe et élaboré. Chacun obéit à la consigne commune, et c'est ce qui les rend extrêmement redoutables quand on n'a pas la chance de faire partie de leur proie.
Allez, on a une minute. En une minute, la plus belle plongée. Au milieu des orques, pour vous, c'était quoi?
C'est une des plongées que je raconte dans mon livre, qui m'a amené une fois à suivre une femelle qui allaitait son petit. Elle s'est arrêtée à la surface, elle s'est mise à dormir devant moi. J'étais absolument blasé et j'étais fasciné par...
Elle ferme les yeux, elle est sur le dos.
En fait, elle n'a pas fermé les yeux, mais elle s'est stationnée à la surface. Elle a arrêté de bouger et le petit continue à la téter. Et puis je suis resté quelques secondes pétrifié comme ça, et tout le groupe est venu autour et s'est positionné autour sans bouger. Et Et j'ai pas pu bouger non plus parce que là j'aurais forcément dérangé les orques. J'étais au milieu de la famille en train de les regarder faire la sieste.
Vous avez adopté.
Je crois qu'il m'avait fait une petite place. Oui.
Ça vit vieux un orque, une orque.
Dans la nature, ça vit très vieux. La plus vieille orque a dépassé les 100 ans. Elle s'appelait Granny. Elle est morte il y a 2 ans en Colombie-Britannique. Elle a dépassé les 100 ans.
Et c'était vraiment elle. C'est pas comme l'histoire de Jeanne Calment.
Non. C'était vraiment elle. État civil faisant foi.
Il ouais, y a pas des ruses pour venir mettre ça en doute.
C'était un. Merci. Un grand bonheur de vous avoir, Pierre-Robert de la Tour. Et vos histoires sont à lire. Vos plongées magnifiques dans Frères des orques, 20 ans de plongée avec les orques libres. C'est publié chez Glénat. À bientôt, j'espère.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.